Bonjour.
Eh bien tout le monde.
C'est bien. On n'est pas aussi nombreux que d'habitude, mais voilà, nous sommes là et on veut dire bonjour à tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, et en particulier à Eric, que Dieu te bénisse, et puis à Samuel aussi, que Dieu te bénisse, et puis bon, avec tous les autres. Voilà, on ne va pas dire tout le monde parce qu'on en a pour 50 ans. Ah oui, Robert, il est en Afrique, alors que Dieu le bénisse. Hein, oui. C'est bien, que Dieu le bénisse. C'est une bonne chose d'aller servir le Seigneur là-bas. Nous allons faire une étude, regarder dans les Écritures, dans 2 Timothée 3, 16, s'il vous plaît, 2 Timothée 3, 16. Alors, je lis. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Jésus, je te prie que tu m'aides à transmettre ce message avec clarté pour que mes frères et sœurs qui viennent sur Internet ou qui sont là ici ce matin puissent bien comprendre et améliorer les choses qui doivent être améliorées. Merci Jésus. Amen. Alors quand j'ai lu ce texte, il y a quelques jours, ça fait... Vous voyez, j'ai réalisé hier que demain, l'année prochaine, je fête mes 50 ans de conversion.
Bravo.
C'est terrible quand même, bravo, j'ai réalisé ça. Et quand j'ai lu, donc ce texte, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, mais hier, quelque chose m'a frappé que je n'avais jamais vu. Vous savez, quand on marche avec Dieu, on ne voit pas toujours tout de suite. Je crois qu'on voit les choses dont on a besoin au moment où on en a besoin. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Et là, j'ai compris une chose que je veux partager avec vous, parce qu'il se peut que vous aussi, puisque vous êtes liés en esprit avec nous, puisque vous venez écouter les prédications sur Révélation Bible, c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit. Eh bien, je pense que peut-être il est possible que vous en ayez besoin en ce moment. Paul écrit donc à Timothée, il lui dit que toute l'écriture est inspirée et utile. Mais de quelle écriture parlait-il? De ce que... de l'Ancien Testament, bien sûr, de l'écriture de l'Ancien Testament. Et aussi, sans doute, de certains livres que l'Église a rejetés au cours des siècles, et qu'elle a classés dans les apocryphes. Alors, dans les apocryphes, il y a à boire et à manger, tout n'est pas bon. Mais c'est quand même intéressant de lire, c'est quand même bien, c'est sage de lire. Mais dans les apocryphes, vous avez des textes qui sont vraiment, moi je trouve, complètement inspirés, comme le livre d'Enoch, le livre de Thomas, les 12 patriarches, enfin beaucoup de choses. Les premiers chrétiens étaient en possession de ces livres-là. Ils en parlent, on voit ça dans les Écritures. Par contre, Paul, il ne pouvait pas citer toutes les épîtres que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament pour la simple et bonne raison que, elles n'avaient pas encore été écrites. Quand on lit ce que l'apôtre Pierre écrivait, on s'aperçoit que l'Église considérait déjà les écrits de Paul comme des écritures sacrées. On va lire. Vous allez voir dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 3, 14, 16, c'est pourquoi, bien-aimés, c'est l'apôtre Pierre donc qui écrit, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certains points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc, ils considéraient les écrits de Paul comme les autres écritures, comme les écritures sacrées. C'est bien à savoir, c'est un bon témoignage. Nous comprenons donc que les écritures sacrées sont utiles, mais qu'il s'y trouve des points difficiles à comprendre. C'est justement parce qu'il y avait des points difficiles à comprendre, par exemple dans Enoch ou dans d'autres textes, que l'Église nous a balancés en disant « c'est pas c'est pas vraiment utile. Bon, c'était leur jugement à l'époque, mais heureusement, en cette fin des temps, Dieu remet toute cette connaissance à notre disposition. Et donc, des choses difficiles à comprendre, et puis, il y a des personnes ignorantes, c'est ce qu'il dit, d'autres qui sont mal affermies, c'est-à-dire ceux que j'appelle les bricoleurs de Dieu, qui tordent le sens, et il dit, mais c'est pour leur propre ruine, malheureusement, c'est aussi pour la ruine de ceux qui les écoutent. Il y a donc un risque à écouter des gens qui ignorent, qui sont des ignorants, ou alors qui sont mal affermis dans les choses de la foi. Par exemple, quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui... Voilà, moi aussi, je suis ignorant de beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a quand même un minimum de choses à savoir si on veut se mettre à prêcher l'Évangile. Et puis d'autres qui sont mal affermis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grande certitude. Par exemple, je vois certains de plus en plus au sujet du salut, ils n'ont pas de certitude, ils redeviennent un petit peu comme les catholiques avec cette histoire de « il faut faire des œuvres pour être sauvé ». Alors j'ai déjà fait quelques prédications à ce sujet-là, mais ce sont des gens qui ne sont pas affermis, ils marchent un petit peu comme... c'était Camélia qui disait ça, marcher avec un pied sur le trottoir et un pied sur la route, c'est-à-dire on est un peu en déséquilibre, on est mal affermi. Mais Pierre, il va plus loin, au verset 17, il dit que nous devons faire attention de ne pas être entraînés par l'égarement ou dans l'égarement des impies. Il y a aussi des impies, des gens impies qui enseignent, et ça c'est grave. Et que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre notre ferme position, c'est-à-dire qu'on va être aussi bancal spirituellement, parce qu'on a affaire à des gens qui manipulent les Écritures et qui leur font dire ce qu'elles ne disent pas. L'apôtre Pierre déjà disait, oui c'est vrai que l'apôtre Paul c'est un peu compliqué à comprendre, et alors, étant donné que c'est compliqué à comprendre, il y en a qui tordent le sens, n'est-ce pas, des choses qu'il dit pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Alors, il y a donc des ignorants, il y a des mal affermis, et il y a des impies. Alors avec tout ça on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois sortes de personnes? Elles s'égarent elles-mêmes, nous dit la Bible, mais ce qu'il y a de plus grave encore, si elles veulent s'égarer, après tout, ça les regarde, mais c'est qu'elles égarent celles qui les écoutent. Ça, c'est dangereux pour elles. On en connaît. D'où viennent qu'elles s'égarent, ces personnes? Ça, c'est une question. Comment une personne ignorante peut-elle se mettre à enseigner? Ça, c'en est aussi une autre. Comment une personne mal affermie peut-elle se mettre à enseigner? Encore une question, comment un impie, c'est-à-dire un injuste, quelqu'un qui a usurpé une place d'enseignant, peut-il enseigner? Voilà encore une question. Eh bien, à toutes ces questions, il n'y a qu'une seule réponse, c'est parce qu'elle trouve des auditoires. Je me rappelle toujours de Coluche qui disait au sujet d'une certaine chanteuse, dont le nom est Sheila pour ne pas... la cité, il disait, quand on pense qu'il suffirait que personne achète ses disques pour que ces disques ne se vendent pas. Il n'était pas très gentil de dire ça. Mais c'est vrai que s'il n'y avait personne qui allait écouter ces gens-là, eh bien, ces gens-là ne parleraient plus. Mais ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils vont les écouter? Ça résume, ça donne la réponse à toutes ces questions que j'ai posées tout à l'heure. C'est parce qu'elles trouvent dans ces enseignements-là quelque chose qui correspond à leur propre déséquilibre. Voilà pourquoi elles ont du succès, ces personnes qui enseignent d'une façon bancale, qui tordent le sens des Écritures. C'est parce que ces personnes-là, elles trouvent dans l'enseignement des impies, des mal affermis et des ignorants quelque chose qui correspond à leur manque de connaissances, à leur impiété, à toutes ces choses-là. Bref, c'est pas le propos que je veux tenir ce matin. C'est tout autre chose que je veux vous dire. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de l'ordre, on sait comment les ministères doivent être établis, et si vraiment l'Église faisait comme ça doit être fait, eh bien, il n'y aurait pas tout ce fourbi et toutes ces horreurs. Je me rappelle qu'en convention pastorale des Assemblées de Dieu, il y avait eu... c'était ému parce que le gouvernement disait « il faut absolument qu'on surveille les musulmans » et qu'on exige des imams qu'ils aient fait une école officielle reconnue par l'État. Et ils disaient, mais vous rendez compte, si cette loi passe pour les musulmans, après, nous aussi, on va devoir aller dans une école qui est reconnue par l'État. Et à ce moment-là, ça va être une église évangélique d'État, contrôlée. Et alors, ils s'émouvaient de tout cela. Mais nous n'avons pas à avoir peur, nous ne devons pas agir dans la peur, nous devons agir dans la liberté et l'amour de Jésus-Christ. Si nous sommes certains d'être dans la vérité, si nous sommes persécutés, bon ben tant pis, on sait pourquoi, d'accord? Donc on n'a pas à avoir cette sorte de crainte. Il y a de l'ordre dans Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, et Jésus-Christ prend soin de son Église, il fait attention à son Église, le reste, il laisse couler. Vraiment, je crois de tout mon cœur, il laisse couler, il laisse faire. Il laisse faire, et un jour, tout ça, ben ça viendra en jugement. D'ailleurs, c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Et c'est de l'Église de Jésus-Christ dont je veux vous parler. Et non des usurpateurs, impies, mal affermis et ignorants, je n'ai pas de temps à perdre à parler de ça encore et encore. Donc voilà ce qui m'est apparu dans ce texte de Timothée 3,16. Il y a deux verbes qui semblent être des synonymes. On va relire donc Timothée. C'est 2 Timothée 3,16, c'est facile à se rappeler hein, comme référence, 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors, les deux mots qui semblent être synonymes, c'est enseigner et instruire. Ça semble être des synonymes. Mais ce ne sont pas forcément des synonymes parce que enseigner et instruire, ce sont des mots qui ont plusieurs significations. Et il faut qu'on sache. Si on est des ignorants, évidemment, on ne sait pas. Et alors on dit, bon ben voilà, on est enseigné, on est instruit, ça me paraît, c'est la même chose. Vous savez, vous qui m'écoutez, vous savez que j'aime bien les mots et la Sainte Bible, les Saintes Écritures ont pour rôle d'enseigner, de convaincre, nous dit l'apôtre Paul, de corriger. Dans un but, pour instruire. Vous savez peut-être pas, mais on peut très bien éduquer quelqu'un sans l'instruire. Ça, c'est ce que font la plupart des parents aujourd'hui. Ils prennent pas le temps, même d'éduquer leurs enfants, mais encore moins de les instruire. On les met devant la télé, devant un jeu, et puis débrouille-toi. Ils s'en débarrassent, en fait. Beaucoup de parents font ça. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut instruire sans éduquer. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. En communiquant un savoir, tout simplement, eh bien, on peut éduquer sans instruire. Ou instruire sans éduquer. Ok, cela dit, sachant que dans les 5 ministères dont la Bible parle, il y a des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Comment cela se passe-t-il dans l'Église de Jésus-Christ rétablie dans ces derniers temps, véritablement, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce ministère d'enseignant? L'enseignant, il enseigne, ça, hein, voilà, tiens, une vérité à la palisse. Le disciple de Jésus-Christ, il médite l'enseignement qu'il trouve lui-même dans les Écritures, et il se trouve instruit. Et puis aussi, il entend les ministres qui l'enseignent. Bon, je pars du principe que je suis en train de m'adresser à des vrais disciples ayant de bonnes intentions et qui sont soumis à Dieu et au ministre de l'Église de Jésus-Christ et qui sont donc réellement membres du corps de Christ. Je ne m'adresse pas à des électrons libres, hein, je m'adresse vraiment à des gens qui sont dans l'ordre établi des choses. Bien, alors les Saintes Écritures nous enseignent. Les enseignements qu'elles nous donnent, si nous ne les tordons pas, ils servent à nous convaincre. Ils nous convainquent. Rappelez, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il nous convainc. L'enseignement de la Sainte Écriture nous convainc parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Nous étions dans le monde et le Saint-Esprit nous a convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que notre salut ne vient que de lui. Et qu'il n'y a pas de salut possible en dehors de lui, et que toutes vos bonnes œuvres sont vaines pour ce qui concerne votre salut, c'est par vos bonnes œuvres qui font que vous allez être sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous croyons dans la grâce de Dieu, et le Saint-Esprit se charge de nous convaincre. Mais si vous tombez sur un enseignant tordu, ignorant, mal affermi ou impie, il va tordre ça et il va vous dire « Oui, non, mais il y a quand même des textes qui disent qu'il faut faire des œuvres. » Et je me suis appliqué à vous démontrer que ces textes-là ne parlent pas du salut, mais des récompenses. Et on va en venir, il y en a encore beaucoup d'autres sur lesquels je vais venir. Et puis le Saint-Esprit nous convainc ensuite de justice. Et nous avons besoin d'être convaincus de justice, que même si on ne voit pas Jésus, parce qu'il est auprès du Père, lui, il nous voit et il exerce la justice. Quand Jésus parle, il dit « Le Saint-Esprit vous convainc de justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me voyez pas. » C'est bizarre, ça, comme phrase. Il faut chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Lui, il nous voit et il exerce sa justice. Et vous allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il est là, derrière le mur, et que si vous faites quelque chose, il vous tape dessus pour exercer la justice. Ce n'est pas ça. Et le Saint-Esprit nous convainc de jugement, c'est-à-dire nous savons, nous sommes convaincus par le prince, que le prince de ce monde, Satan, est jugé, on est convaincu, c'est ce que Jésus dit, vous êtes convaincu du jugement parce que le prince de ce monde est jugé, mais ça signifie que le prince étant jugé, ceux qui le suivent, en suivant les ignorants, les malaffermis ou les impies, sont en voie de jugement. Sont en voie de jugement. En fait, pour eux, la justice est instruite. Ah, voilà le mot. Instruire ne signifie pas que former l'esprit de quelqu'un en lui donnant une connaissance, mais instruire signifie aussi mettre en état d'être jugé. On instruit une affaire. Vous voyez ? Instruire, c'est aussi ouvrir une information pour ou contre une personne. Tant que le jugement n'a pas eu lieu, elle est présumée coupable ou innocente, on ne sait pas. Mais on instruit l'affaire, puis après vient le jugement. En ce moment, personne n'est jugé, mais l'affaire est instruite. Votre affaire, mon affaire est instruite. C'est cela qui m'avait échappé jusqu'alors en lisant ce texte. À la lumière de cette connaissance, maintenant, on va aller plus loin. En paraphrasant ce texte, cela signifie que toute l'écriture sacrée est inspirée de Dieu et utile pour quatre choses. Un, pour enseigner, ensuite pour convaincre, ensuite pour corriger s'il le faut, c'est vrai, et finalement pour instruire la justice à notre égard. C'est-à-dire que cet enseignement qui nous convainc, qui nous corrige, suivant la réaction que nous avons, cela instruit la justice à notre égard. On va lire Jean 12, 44. C'est Jean 12, 44, 50. J'espère que c'est ça. C'est ça. Voilà, Jésus. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. » Deux points. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Qui sera jugé par la parole que Jésus a dite? Ou par la parole que les apôtres et les prophètes ont dite? Ou que nous trouvons dans les Écritures? Ceux qui n'auront pas cru, ni Jésus, ni les apôtres, ni les prophètes, ni les Écritures, qui n'auront pas cru ces paroles-là. Ces gens-là seront jugés par ces paroles-là. C'est ce que Jésus dit. N'est-ce pas ce que Jésus dit? Alors, il y a jugement et jugement. Ceux qui auront cru que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le seul sauveur de leur âme, ceux-là ne seront pas jugés pour savoir s'ils vont en enfer ou au paradis. Ça, on le sait, puisque Jésus a dit « Ceux qui croient en moi sont déjà jugés, leur affaire est classée, ils sont sauvés. » Jean 3, 18. Ceux-là sont sauvés de l'enfer. Ne parlons pas non plus de ceux qui veulent rien croire. Parlons de ceux qui ont la même Bible que vous et moi et qui la lisent, qui sont donc enseignés. Ils sont mis en face de certains textes, et on va en prendre un, le plus choc, celui qui dérange tout le monde, et je vais faire exprès de le faire, je vais mettre les pieds dans le plat bien profond pour bien embêter ceux qui ne m'aiment pas. Quand vous lisez les Écritures, vous êtes mis en face de textes sacrés qui parlent par exemple de la dîme qu'il faut donner à l'Église, pas aux pauvres. Aux pauvres, vous devez donner, c'est l'aumône, c'est la charité, c'est normal, on donne aux pauvres. Mais la dîme, ça n'a rien à voir avec ce que vous donnez à Tartampion et à machin, à gauche, à droite, ça n'a rien à voir. Vous devez donner la dîme à l'Église afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est dans l'Église. Et ce texte qui dit ça, bien sûr, il se trouve dans l'Ancien Testament, mais il est aussi valable qu'au temps de Jésus, ou que, à notre temps, puisque maintenant c'est le temps de Jésus. Matthieu 23, si vous voulez lire avec moi, Jésus est en train de parler à des pharisiens, c'est-à-dire des bricoleurs de Dieu, et il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, voyez que Jésus n'y va pas par quatre chemins, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, c'est-à-dire qu'ils donnent le dixième de tout, ils sont très pointilleux là-dessus, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste, conducteur aveugle. » Il dit pas, il faut pas donner la dîme, il dit, il faut la donner, mais c'est pas la seule chose qu'il faut faire. Il faut pas oublier aussi d'être juste, d'être bon, d'avoir de l'amour. Et ça, vous le faites pas, par contre. Alors, faites ça. Donnez votre dîme, c'est juste, y a pas de problème. C'est très bien. Mais si vous faites pas le reste là, ça c'est pas bon. Et Jésus est en train de dire la même chose à son peuple. Sauf que c'est le contraire maintenant. Vous voulez être bon, vous voulez être merveilleux, vous voulez être gentil, vous voulez pas donner la dîme. Alors c'est bien, soyez bon, soyez gentil, mais sans oublier le reste, c'est-à-dire donner la dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et que de cette sorte je puisse vous bénir et vous combler de toutes sortes de bienfaits. Là. Jésus ne dit pas de ne pas donner la dîme, il dit au contraire, vous donnez la dîme, c'est ce qu'il faut faire sans négliger le reste. Il faut le faire, Jésus le dit, mais ils ont écouté quoi? Leur avarice? Ils ont écouté quoi? Un pasteur inique, un pasteur ignorant, un pasteur mal affermi, enfin ils ont écouté la chair et ils ont dit, ah oh ben oui, c'est vrai, c'est pour l'Ancien Testament, on peut garder la dîme pour nous. Puis d'ailleurs on donne tellement aux pauvres, ça suffit. Non, ce que vous donnez aux pauvres c'est bien. Mais quand vous donnez aux pauvres et que vous ne donnez pas à Dieu, vous volez Dieu, vous trompez Dieu. Ainsi dit le Seigneur, c'est ce qui est écrit. Vous me trompez la nation tout entière. Mais vous voyez, ils sont mal affermis, ils ne comprennent pas bien. Alors, c'est facile de dire, non, il ne faut pas donner la dîme. Qui c'est qui dit ça en général? Les pasteurs qui ont trois membres. C'est-à-dire les pasteurs qui, le dimanche, vont prêcher à 3-4 personnes et qui ont un bon boulot derrière. Ils n'ont pas besoin de dîme. Mais un pasteur, un serviteur de Dieu qui se consacre dans l'église et qui travaille sans cesse comme ça, il est bien obligé d'avoir un salaire. Tu ne muselleras pas le bœuf qui est en train de moudre le grain. Et puis ensuite, dans l'église, il doit y avoir de quoi pouvoir faire de l'humanitaire, aider les uns et les autres. D'abord dans l'église, ceux qui sont pauvres. Et combien de fois nous avons pu, grâce aux dîmes, aider des personnes dans notre église, dans notre communauté, qui étaient malades ou qui ne pouvaient pas travailler, ou qui étaient flemmards, on en connaît plein. On s'en est aperçu après, qui faisaient, n'est-ce pas, n'importe quoi, parce qu'on était trop bons, trop bêtes. Mais tout cet argent a servi à quelque chose, à l'humanitaire,
à construire des choses en Afrique, à donner beaucoup, enfin bon, voilà. Il faut que l'Église ait de l'argent pour pouvoir donner de l'argent. Si l'Église n'a pas d'argent, comment voulez-vous qu'elle donne de l'argent? Alors vraiment, c'est un petit club de 3 ou 4, il n'y a pas besoin. Le pasteur, il a un bon travail, hein, il est prof de quelque chose, ou balayeur quelque part, enfin il a un boulot. Il n'a pas besoin que ses 3 pelés, ses 4 tondus lui donnent la dîme. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que la vie de l'Église, parce qu'ils ne vivent pas dans l'Église. Ils vivent dans leur cuisine avec 3-4 mémères. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je le dis sans amertume, je le dis pour que ça soit bien clair. On n'a pas le droit de faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Jésus dit, vous faites bien de donner la dîme, mais il ne faut pas oublier le reste. Alors, ces derniers, ces gens, leur ont dit, non, c'est fausse doctrine, c'était bon sous l'ancienne alliance, aujourd'hui c'est fini, on n'est plus sous la loi. Ces gens-là, vous savez ce qu'ils font, ces bricoleurs, ces ignorants, ces malaffermis, ces impies, ces gens-là, ils contribuent à la pauvreté de l'Église, qui ne peut rien faire sans argent. Ça, Coluche le disait aussi. Il disait, si tu n'as pas 100 balles, tu ne peux pas donner 100 balles. Donc tu dois avoir 100 balles pour pouvoir donner 100 balles. Et si l'Église, il n'y a rien qui rentre, ben il n'y a rien qui peut sortir non plus. Et la mère morte est un bon exemple de cela. La mère morte, il y a quelque chose qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. Vous avez des églises comme ça aussi. J'en connais. À Paris, il y en a une très célèbre, je ne dirais pas le nom. Il y a plein de pognon qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. Ce qu'ils font avec le pognon, ils achètent des bâtiments, et ils les louent, et ils s'enrichissent encore davantage. Et c'est tout. C'est de la folie. Il faut être biblique, il faut faire les choses justes. Si on reçoit, c'est pour pouvoir donner. Amen. Voilà. Alors ces gens, ils contribuent à la pauvreté de l'Église, qui ne peut rien faire sans argent, plus d'humanitaire, plus de bon fonctionnement de l'Église. Alors voilà, à partir du moment où on a 40 ou 50 membres, on est obligé, n'est-ce pas, de louer un machin dans un quartier pourri. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps en France. Ils louent des trucs dans des hangars, mais non, je suis désolé, Dieu mérite mieux que ça. On doit avoir des lieux de culte qui sont magnifiques pour la gloire de Dieu, non? Je dis pas de construire des cathédrales, mais d'avoir quelque chose de décent. On a des salles à manger, c'est fait pour manger. On a des toilettes, c'est pour faire ce qu'il y a à faire. On a des cuisines, c'est pour faire ce qu'on doit y faire. Et on doit avoir un lieu de culte aussi. Et tout ça, ben, c'est de l'argent. Hey, Michel, c'est pas vrai, on peut très bien là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Mais c'est vrai que dans des situations critiques, absolument dans des cas spéciaux, moi je connais en Afrique des gens, il n'y a rien, ils n'ont rien. Même s'ils donnent la dîme c'est rien, on ne peut même pas s'acheter un bout de pain avec la dîme qui est donnée dans l'église, tellement qu'ils sont pauvres, de chez pauvres. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas des églises, des lieux de culte extraordinaires. Il faut être intelligent, il faut sortir, il faut aller voir un peu ce qui se passe dans la vie. Oh, les Américains, ils ont tous des belles églises, hein, ils sont bénis. Oui, non. Ils sont obéissants, alors voilà pourquoi ils peuvent avoir des belles églises, parce qu'ils donnent. Bref, ces gens-là sont les responsables devant Dieu, ils font l'œuvre de Satan qui veut absolument ruiner l'église. Voilà, c'est dit. Voilà pourquoi Paul écrit à ces impies de Corinthiens, on va dire 1 Corinthiens 9, 8, 11. 1 Corinthiens 9, 8, 11. Coucou mes Corinthiens, où est-ce que vous êtes? 1 Corinthiens 9, 8, 11. Parce qu'ils contestaient les Corinthiens. Ils contestaient. Oui, l'argent, c'est pas ce qu'ils veulent. Alors Paul est obligé de leur dire, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop vous demander? Est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Vous voyez? Vous écoutez la parole de Dieu. Vous venez sur Révélation Bible. Vous appréciez le ministère. Vous apprenez des choses. Combien de m'écrivent? Ah, frère Michel, merci, ça m'a fait du bien. Ah. Est-ce que c'est anormal que, par exemple, après avoir reçu des biens spirituels, est-ce que ça serait anormal que vous bénissiez l'œuvre de Dieu dans laquelle mon épouse et moi, nous sommes en travail avec la communauté et que nous récoltions quelques biens matériels de votre part? Ah, mais j'ai pas beaucoup. On te demande pas beaucoup. Fais comme la Bible dit. Fais comme la Bible dit. Tu vas voir, tu vas être béni. Fais-le. Ose faire.
Je sais que je vais me faire des ennemis. Hein. Tant pis, j'ai l'habitude.
Les Corinthiens, ils écoutaient les enseignements de Paul. Oh.
Mais sottement, ou méchamment, je ne sais pas, ils pensaient que Paul ne vivait que d'amour et d'eau fraîche, et il profitait bien de son ministère, mais il lui donnait rien en retour.
Le ciel va le bénir. Il est tellement béni, ce Paul. Dieu va lui faire tomber des dollars dans sa poche par des miracles. Mais ça existe les miracles, vous savez, madame.
Non, mais il faut arrêter d'être bête. Il y a un ordre dans l'Église. Croyez-moi, ils étaient enseignés, là, Paul les corrige. Toute écriture, tout enseignement sert à enseigner, mais aussi à corriger. Et ce matin, je vous corrige un peu pour certains. Et s'ils n'acceptaient pas cette correction, eh bien, la justice était instruite à leur sujet. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est dit.
Je dois vous le dire, parce que tout le monde dit « Jésus revient bientôt, alléluia, il faut être prêt ». Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Ben, ça veut dire rentrer en ordre selon l'Écriture. Ils seront jugés justement. Est-ce que vous comprenez mieux ce texte maintenant? L'Écriture sacrée enseigne. Les ministres de Dieu enseignent la parole sacrée. Enseigner, c'est un travail. Un travail qui aide à convaincre les auditeurs, à convaincre les lecteurs. Cela corrige certains, ceux qui en ont besoin, et cela instruit la justice à leur égard. Une instruction est ouverte. Les serviteurs de Dieu avisés, ne vous enseignez pas parce qu'ils aiment passer du temps dans leur bureau à rien faire d'autre que de lire la Bible, et puis d'écrire, prendre des notes, et puis de prier, et puis d'avoir une idée, avoir une inspiration, et puis que c'est une bande de gros flemmards qui font rien. Ils le font pour votre bien, ils ont été appelés à ça pour votre bien. Et Paul dit alors, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Il était culotté, Paul, hein? Il a raison. Bien, les gens n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Il y en a plein qui écoutent ça en ce moment-là sur Internet et qui vont dire, ouais, l'apôtre Paul quand même. Bon, ben c'était l'apôtre Paul. Maintenant, si c'est Michel Janton qui vient me dire, après que j'ai semé chez vous des biens spirituels, est-ce trop de vous demander de m'envoyer votre dîme? Alors là, non, si c'est Michel qui le dit, ça vient du diable. C'est facile. Il leur dit, quand vous ne donnez rien à l'Église, vous êtes comme un paysan qui muselle le bœuf et qui est en train de fouler le grain qui vous servira à faire votre pain pour votre nourriture. Vous êtes en train d'affamer votre bœuf. Vous êtes en train de priver le serviteur de Dieu de ce dont il a droit. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup de parents éduquent leurs enfants sans les instruire. Que signifie instruire? Ça vient du latin instuere. Je parle pas trop bien latin. Hein. Ça signifie outiller, ça signifie équiper, ça signifie assembler, élever, bâtir. Alors oui, bien sûr, les textes sacrés instruisent dans la justice. Ça signifie aussi que ça vous outille, que ça vous donne les bons outils, les bonnes armes. À vous qui écoutez, ça signifie aussi ça. Mais ça ne signifie pas que ça, parce que le mot « instruire » signifie plusieurs choses. Et si le mot « instruire » a plusieurs significations, nous ne devons rien rejeter des significations de ce mot qu'on trouve dans la Bible. Nous ne devons pas rejeter, et surtout pas, le fait que nous serons jugés par la parole que nous avons entendue. La justice de Dieu instruit donc bel et bien notre affaire en vue d'un jugement. Jésus dit, c'est pas moi qui vous juge, moi je suis venu pour vous sauver. Mais les paroles que j'ai dites, si vous ne les écoutez pas, c'est elles qui vous jugeront. Ça ne veut pas dire que vous serez perdus, mais ça veut dire que vous perdrez des récompenses, ça c'est certain. Alors, à nous, de vous apporter la connaissance, à nous de vous donner les outils par l'enseignement, et puis à vous maintenant de prendre ces outils pour être capable de faire un travail en pleine autonomie, parce que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez autonome. Les Écritures sacrées sont là, les ministres de Dieu sont là, pour prêcher l'Évangile, ils travaillent à enseigner pour que vous ayez les outils et pour que vous sachiez utiliser les outils et les armes spirituelles d'une façon pratique, pas simplement des choses, que sais-je, moi, cette espèce de fable qu'on nous raconte en ce moment, mais pratique. On vit dans un monde pratique. Il faut être pratique. Là, je suis en train de regarder ce que les diverses religions, catholiques, protestantes, protestantes réformées, baptistes, pentecôtistes, mennonites, mormones et compagnie font, ont fait pour ce qui s'est passé là-bas avec les ouragans. J'ose pas vous lire les chiffres, parce que j'ai honte. J'ai honte par rapport au pentecôtisme. Vous savez qui c'est qui est gagnant? Qui c'est qui rapporte le plus? Qui c'est qui donne le plus? Vous savez qui c'est? Ceux que vous traitez de secte, les mormons. Oui, mais c'est pas parce qu'ils font des heures que... N'empêche que... Ils donnent là où il y a des besoins. Ils le font. Ils n'ont pas simplement en train de prier. Mais comme disait Jacques Brel dans sa chanson, « Mais c'est ces gens-là, monsieur, on ne pense pas. On prie. » Le but, c'est que le disciple arrive à penser par lui-même. Vous savez, dans le monde, hors de la vraie Église de Jésus-Christ rétablie, les gens pensent souvent avec des idées reçues, avec des préjugés, avec des formules toutes faites, des trucs qu'ils lisent dans les journaux, à deux balles, des idées à la télé, à Internet et tout ce chenil-là. Les textes sacrés sont là pour fixer la vérité. C'est ça qui doit nous instruire. C'est ça qui doit occuper nos pensées et nous donner les outils divers pour que nous puissions nous libérer du conformisme. Faire ce que la Bible dit, parce que quand Dieu dit quelque chose, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veut. C'est quand même pas compliqué. L'enseignement de Jésus, des apôtres, des prophètes, sont des outils pour vous libérer des réflexes d'obéissance moutonnière. Alors, me dire, oui, mais vous êtes aussi une brebis du Seigneur. Oui, mais moi, je préfère être une brebis du Seigneur qu'un mouton du diable. J'ai besoin de suivre quelqu'un. Je choisis Jésus comme maître. Et s'il dit, c'est bien de donner la dîme, mais c'est pas, il n'y a pas que ça à faire, alors ça veut dire qu'il faut donner la dîme et il faut faire aussi tout le reste. Amen. Amen. L'enseignement vous donne les clés pour être autonome. Libérer des dogmes, libérer des préjugés, mais aussi libérer de la pauvreté, parce qu'il y a une promesse pour celui qui donne sa dîme. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous n'avez pas la bénédiction en abondance? Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés financières, vous ne savez pas comment faire, et pourtant vous donnez à plein de pauvres. Mais vous ne donnez pas à la maison de Dieu. Donnez à la maison de Dieu, vous allez voir. Donnez à la maison de Dieu. Donnez à l'Église. Les enseignements vous donnent des clés pour être autonome. Pour pouvoir faire librement, avec amour, la bonne volonté de Dieu. Voilà. Mais encore faut-il que les chrétiens acceptent d'apprendre et commence à travailler au maniement des outils divins et des armes divines. Il faut qu'ils se mettent à bouger un peu. Et c'est cela la différence entre enseigner et instruire, je voulais vous le dire ce matin. Instruire, c'est comme guérir. Vous savez, si vous voulez guérir, prendre un médicament, ça ne suffit pas. Moi, je me rappelle quand j'étais avec Michou devant mon cancérologue, elle m'a dit, Monsieur Janton, vous allez vous en sortir parce que votre corps marche en symbiose avec votre tête. Prendre un médicament, ça ne suffit pas. Il faut que tout votre organisme, par ses propres défenses, se mobilise et participe à sa propre guérison.
Ben, enseigner, c'est une chose. Ensuite, corriger, c'en est une autre. Ça y est, c'est fait. Puis maintenant, ben, il faut pratiquer. Et si vous ne pratiquez pas, eh ben, votre dossier va être instruit en vue du jugement. C'est vous qui voyez, hein? C'est vous qui voyez. Vous faites partie d'un tout, mes frères et sœurs, et il faut que vous entriez dans le fonctionnement harmonieux de ce tout. Il faut que vous entriez là-dedans. L'autre jour, j'étais avec mon frère Inoussa, le frère de Nicolas. C'était la première fois qu'il sortait du Burkina Faso. Il n'avait jamais vu aucun autre pays. Et puis, je l'ai emmené au Hall, je l'ai emmené chez Mickey, je l'ai emmené à Notre-Dame pour qu'il voit l'architecture, je l'ai emmené à Tour Eiffel, parce que ça, c'est voilà, je l'ai emmené dans divers endroits, comme ça, partout, je lui disais, tu vois tout ça? Et on vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Je dis, regarde les gens qui font la queue à la caisse. 98 euros par personne, ils payent pour passer une journée chez Mickey. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Regarde tous ces gens qui font la queue à la Fnac pour acheter le dernier disque de Tartampion. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Regarde les gens qui sont en train d'acheter ces bouquins. On peut très bien s'en passer. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent. On trouve suffisamment d'argent pour fumer, pour attraper le cancer, pour ensuite aller faire encore plus, non seulement un trou dans le cimetière, mais aussi dans la sécurité sociale. On en trouve de l'argent pour faire toutes sortes de bêtises, mais pour Dieu. Comment osez-vous dire? Mais comment osez-vous dire? Non, il n'y a pas besoin de donner de l'argent à l'Église. Non, il n'y a pas besoin. Dieu fait des miracles, l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a qu'à mettre de l'argent sur le compte. Comment? Mais quelle intelligence? Mais qu'est-ce que c'est? Ben, je ne comprends pas. Vous faites partie d'un tout. Il faut que ce tout, il faut que vous entriez dans le fonctionnement harmonieux de ce tout. Et ça, ça passe par l'enseignement que les Écritures et les ministres de Dieu vous donnent. La conviction que vous devez acquérir et entretenir, ça passe aussi par les corrections que les Écritures et les enseignants qui sont courageux osent vous infliger si besoin est. Et tout cela, c'est pour instruire votre dossier de justice. 1. Pour que vous agissiez selon ce qui est juste. 2. Pour que votre dossier de justice soit instruit, enrichi des bonnes choses que vous aurez crues, acceptées et mises en pratique. Vous voyez ce qu'il dit là? Je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais c'est bien ce qu'il dit. Je relis de nouveau Timothée. Voilà, toutes mes notes. C'est terrible. Vous qui regardez la vidéo, vous voyez maintenant tous mes petits bouts de papier. Hein. Alors... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, si besoin est, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Pas simplement pour aller poser son derrière dans l'église, puis dire Alléluia, puis au revoir frère, Dieu vous bénisse, puis ensuite vous occupez que de la Bible dit, à la fin, ils s'occuperont plus que d'acheter, de vendre, et puis de marier leur fils et leur fille, et puis de leur truc à eux, puis leur machin à eux, mais l'Église... Oh, je crois au Seigneur Jésus, tout mon cœur. Prouve-le. Ce dossier sera ouvert au grand trône blanc, mes frères et sœurs. Ce grand dossier. Cette instruction qui est faite à votre sujet, à mon sujet. Ça se trouve dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je vous lis. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Vous savez qui c'est qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Je serai là, vous serez là. Moi, je ne serai pas jugé pour savoir si je suis perdu ou sauvé. Ça, c'est fait. Je serai jugé pour mes œuvres. Je ne sais pas vous.
Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez qu'une instruction est en cours à votre sujet ?
Tout est noté. Sœur Intel a donné sa dîme aujourd'hui, mais elle a rogné 3 euros.
Tout est noté. Tout est noté. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre d'après ce qui est écrit dans ces livres, les livres des œuvres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Comment est-ce que on peut... Parce que c'est écrit, il y a une instruction qui est faite à votre sujet. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Voilà. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est votre sauveur, même le bien que vous avez fait, ça ne sert à rien, vous serez jeté dans l'étang de feu. Par contre, si vous croyez dans le Seigneur Jésus, votre nom est dans le livre de vie. Et les choses bien que vous avez faites seront comptées à justice pour vous. Et vous serez récompensé. C'est vous qui voyez. Je vous l'aurais dit. Maintenant, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, Dieu va le voir. Peut-être que moi aussi, je vais le voir. On va se rendre compte, peut-être, on va voir. Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Faites attention avec ces choses. C'est sérieux. Là, je vous ai parlé que de la dîme. Il y a tellement d'autres choses que les chrétiens ne font plus, ou ne font pas, ou négligent, parce que des bricoleurs de Dieu leur ont dit « Mais non, c'est plus pour aujourd'hui, c'est plus... Maintenant, ça se fait plus, c'est plus comme ça. » Bon, voilà. Suivez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous suivrons la parole de Dieu jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Amen. Amen.